passer donc à notre dernier intervenant, la bonne note liste avant l'intervention surprise, bien sûr, à notre dernier intervenant de l'après-midi, Franck Robillard, que je remercie donc, qui lui a une présentation PowerPoint.
Un diaporama.
Alors on va fermer 2001, c'est ça.
C'est bon.
Voilà, je vous laisse faire. Et donc je vais juste demander à Franck, puisqu'on l'avait évoqué ce matin, de nous dire en une minute ce qu'est Helico. Et je voulais juste, parce que sinon j'oublierais de le faire, vous indiquer, j'aurais dû le faire avant, qu'à la bibliothèque de l'ENSIP, si vous avez le temps d'y passer avant de quitter l'école, il y a une sélection de livres autour du sujet de notre journée. Je remercie l'équipe de la bibliothèque de l'avoir préparé comme à son habitude. Et puis je voulais aussi signaler, alors je ne sais pas si parmi nos augustes intervenants, certains connaissent cette newsletter, mais une lettre américaine que moi j'aime beaucoup et qui traite largement des sujets que nous avons traités ce jour et qui s'appelle Net Future. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non, personne ne connaît ça. NET, Future comme futur en anglais. Si vous tapez ça dans Google, vous le retrouverez facilement. C'est absolument gratuit. Et c'est une pensée américaine sur le discours scientifique, comme notre sujet de ce jour. Je vous laisse la parole, Franck.
Merci Yves, merci pour l'invitation à cette journée d'études. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur à l'Université Lyon 2 et je travaille au sein du laboratoire Helico, donc, puisque je dois faire une petite présentation, l'occasion m'en est donnée. Il y a plusieurs collègues dans la salle, là, je viens de voir, qui sont également membres d'Helico. Donc Helico, c'est un laboratoire qui regroupe des chercheurs en sciences de l'information et de la communication qui appartiennent à des établissements de l'agglomération lyonnaise, donc l'ENSIB notamment, l'Université Lyon 2, l'Université Lyon 1, l'Université Lyon 3, et également des chercheurs de l'INRP. Donc l'objet de mon intervention de ce jour consiste à parler des discours d'accompagnement de ce qu'on dénomme le Web 2.0 depuis 4 ou 5 ans, en me focalisant en particulier sur les discours d'accompagnement de ce qu'on a également dénommé depuis 4 ou 5 ans le journalisme participatif. Donc je vais procéder en plusieurs temps, je ne sais pas exactement quel est le temps dont on dispose. Bon, très bien. Donc dans un premier temps, je reviendrai sur un certain nombre d'éléments globaux relatifs au grand trait des discours d'accompagnement du Web 2.0, du Web participatif. Donc ensuite, je prendrai deux écrits en particulier qui se penchent sur le journalisme participatif à titre d'illustration. Enfin, dans un troisième temps, je mettrai en regard ces discours d'accompagnement du journalisme participatif avec un certain nombre d'études qui ont porté sur les pratiques effectives, j'ai envie de dire, des blogueurs ou des internautes qui contribuent à ces sites de journalisme participatif. Ceci nous amènera, in fine, un certain nombre de questionnements par rapport effectivement aux décalages, qui ne sont pas nouveaux, mais qu'on retrouve en ce début de XXIe siècle, entre des discours d'accompagnement et puis des pratiques sociales autour de l'Internet ou de l'informatique de façon plus générale. Alors le cadre théorique dans lequel s'inscrit cette présentation, alors il touche, alors Pascal vient de le dire à l'instant, il y a un débat à propos de ça. Je pense quand même qu'on peut le regrouper de façon très large dans ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire d'éthique. Alors aujourd'hui, à n'en pas douter, il y a plein de gens ici présents qui sont convaincus par cette idée que les technologies de l'information et de la communication ne se réduisent pas à des phénomènes purement matériels et qu'au contraire, ils ont même une part complètement immatérielle qui réside effectivement dans les discours d'accompagnement qui servent effectivement le plus souvent à promouvoir ces technologies d'information et de communication, mais pas seulement, quand même. Pour reprendre la terminologie de Umberto Eco qui distinguait les intégrés, c'est-à-dire ceux qui sont extrêmement favorables à arriver des nouvelles technologies, et puis les apocalyptiques qui eux en dénoncent les travers de façon tout aussi extrême, je pense qu'il y a aussi les deux facettes hein, de ces discours. Ici on se centre sur les discours des intégrés ou des hyper intégrés comme disait Eco, mais il y a également l'autre versant. Donc d'un point de vue théorique, ceci s'inscrit dans un certain nombre de travaux qui ont été menés en histoire des idées. Et en particulier en France, il y a un certain nombre de travaux qui ont tourné autour de l'idéologie de la communication. C'est en France notamment aux travaux de Armand Matelard, aux travaux de Philippe Breton, aux travaux également d'André Vitalis ou de Pascal Robert qui sont ici présents. Et également un grand nombre de publications qui ont été faites dans la revue Terminale de Guy Lacroix. Alors je tiens à préciser d'ailleurs vis-à-vis de cela que ce n'est pas ma spécialité première, hein, que l'étude des discours d'accompagnement, c'est un des éléments de ma pratique de recherche, mais je travaille de façon plus large sur le développement de l'Internet à partir d'approches socio-économiques et d'approches socio-techniques. Mon objet de recherche en tant que tel, c'est le journalisme en ligne. Mais effectivement, ça conduit à la fois à se pencher sur l'organisation de la filière du journalisme en ligne, mais également à prendre en compte les discours d'accompagnement, parce que comme j'ai dit précédemment, de mon point de vue, cet accompagnement discursif des réalisations ou des pratiques sociales en matière numérique en sont tout à fait partie prenante. Alors j'ai développé ça notamment dans un ouvrage que je me permets de citer, non pas à titre d'autopromotion, mais parce que tout simplement c'est de là que je tire l'essentiel de ce que je vais présenter aujourd'hui. Un ouvrage qui s'appelle « Le web 2.0 en perspective » qui est paru en 2007 aux éditions L'Armatan. Alors, par rapport à cela, donc comme j'ai dit, je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que j'ai essayé d'entrevoir des grands traits des discours d'accompagnement du web 2.0. Alors le web 2.0, qui est effectivement très difficile à définir parce que c'est l'objet finalement d'une co-construction entre plusieurs acteurs qui promeuvent des intérêts relativement divergents, il est quand même incarné par un certain nombre de réalisations, des réalisations emblématiques, donc les blogs en premier lieu. Pascal en a parlé précédemment, par exemple Skyblog, mais pas seulement, il y a tout un tas de possibilités en la matière. Également ce qu'on appelle généralement les plateformes participatives. Donc les plus emblématiques, c'est YouTube par exemple pour la vidéo, c'est également une encyclopédie participative comme Wikipédia. Ce sont également les sites qu'on dénomme des sites de réseaux sociaux, comme Facebook, LinkedIn, etc. etc. Alors ces discours ils s'exercent dans plusieurs lieux, on a eu plusieurs exemples d'ailleurs aujourd'hui, la presse dite grand public. Également un certain nombre de rapports, donc en fait on a eu plein d'illustrations au cours de cette journée, vous avez parlé d'un certain nombre d'articles du Monde, Eric Guichard a parlé notamment des rapports on va dire parapublics de l'INSEE ou des rapports d'instituts privés comme le Crédoc. On les trouve également dans des essais, donc il y a un certain nombre de gourous avec beaucoup de guillemets de l'Internet qui ont vendu effectivement des best-sellers en la matière, et puis également dans des écrits académiques, il faut le souligner aussi, je vais essayer d'apporter la preuve ici, quitte à éventuellement, choquer certains collègues ou camarades, mais qui parfois versent effectivement dans certains de leurs écrits dans une phase qui est de nature plus idéologique que scientifique. Même si de mon point de vue, c'est très difficile de distinguer le scientifique et le politique, mais disons qu'on peut quand même avoir un équilibre entre les deux qui peut être plus ou moins respecté. Alors je vais donner des illustrations à propos du journalisme participatif, principalement à partir d'un essai et à partir d'un écrit académique. Mais au-delà de ça, pour donner des illustrations à partir du web 2.0 de façon plus générale, vous sélectionnez un extrait parmi d'autres, donc d'une publication de presse écrite, c'est le magazine L'Express. Donc voilà, vous connaissez ce type de discours, mais je pense que c'est important aussi de les remettre là, 3 ans après. Donc on nous annonçait en 2006 un séisme culturel, c'est pas rien. On nous annonçait qu'à chaque lever de soleil, c'était 100 000 nouveaux éditorialistes qui apparaissaient. Donc c'est pas rien comme annonce. Si on considère qu'il y a 365 jours dans une année, ça fait beaucoup de nouveaux éditorialistes. On nous annonçait également, et ça c'est une des caractéristiques des discours d'accompagnement du web 2.0, c'est cette idée que finalement l'organisation un petit peu traditionnelle, justement souvent un peu caricaturée à partir des théories de Shannon dont on a parlé ce matin, émetteur, message récepteur ou producteur, contenu, spectateur, et bien ici il y aurait une sorte de caractère interchangeable de ses positions avec le web 2.0. Finalement, chacun deviendrait producteur de nouvelles, de contenu, alors qu'auparavant il était spectateur. Bon, ça, c'est quelque chose d'assez connu. Autre exemple, un rapport, la médiamétrie. Alors, ça n'a pas été cité par Eric tout à l'heure, mais c'est aussi un gros producteur de discours à propos de l'Internet. Donc, il avait sorti une étude spéciale en octobre 2006 qui s'appelait « Non numérique ». Autodénommée synthèse du web 2.0, et là aussi on retrouve les mêmes thèmes, changement radical, rupture plutôt que continuité. On avait séisme tout à l'heure, là c'est révolution. plus cette même idée qu'on n'est plus simplement un utilisateur passif avec, avec le Web 2, mais qu'on deviendrait un acteur du Web en tant que tel. Alors ça va être très difficile de résumer, mais je vais essayer de le faire. Donc dans l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai relevé finalement au travers de l'étude de plusieurs types de discours en la matière, qu'il y a trois idées principales autour du Web 2.0. Alors moi je me suis focalisé quand même essentiellement sur les applications Web 2.0 qui tournent autour de l'information et de la culture. Alors, je tiens à le signaler parce que mériterait aussi d'avoir aussi des analyses des discours d'accompagnement du Web 2.0, par exemple autour de la communication d'entreprise, hein, parce que ça aussi c'est très présent. Littérature managériale notamment. Donc trois idées principales. La première, c'est que finalement on aurait un avant Web 2.0, donc comme le disait Pascal tout à l'heure, un avant Internet deuxième génération, on avait finalement des hiérarchies verticales et on passerait à des relations qui seraient maintenant beaucoup plus horizontales. Donc ça typiquement c'est illustré par l'utilisation du Web 2 en entreprise. Hein. Typiquement on va expliquer que la structure hiérarchique est remplacée par des relations beaucoup plus égalitaires pour les différents employés. Une autre idée qui était illustrée précédemment, c'est cette idée de passivité, d'un passage à une activité. Donc cette idée de contribution, de création, de participation, de collaboration, hein, elle induit cette idée principale d'un caractère actif de l'internaute. Et puis la troisième idée, c'est cette idée aussi de liberté. C'est-à-dire que finalement, les outils, en quelque sorte, libéreraient, autoriseraient les internautes à produire un petit peu ce qu'ils voudraient, contrairement à des médias antérieurs qui, eux, n'auraient été dévolus qu'à une frange particulière de la population. Alors, à partir de là, on peut trouver trois racines idéologiques hein, dans ces discours relevant du Web 2.0. Il y a deux racines idéologiques qui sont très connues dans l'histoire des idées, en particulier des discours d'accompagnement des technologies de communication. Et la première, c'est celle qu'on trouve dans les écrits de Saint-Simon. Alors, Saint-Simon voit un véritable culte au réseau. Alors, je vais passer très vite là parce que sinon j'aurais pas le temps de terminer l'exposé. Il y a des gens qui connaissent ça très bien, mais sans doute même mieux que moi. Mais en gros, c'est l'idée que finalement, donc Saint-Simon pense qu'au 19e siècle, les réseaux qui sont en train de s'édifier, notamment les réseaux d'adduction d'eau, également les réseaux de transport, comme le chemin de fer, également un réseau transport de l'énergie, comme l'électricité, etc., vont être en mesure finalement de mettre les habitants d'une nation sur un pied d'égalité, en quelque sorte. Donc il y a cette idée que réseau égale horizontalité, égale égalité finalement entre les différents citoyens, entre les différents habitants. Autre idée, alors là ça a été évoqué plus en détail ce matin, et ça aussi c'est très connu dans les discours d'accompagnement des technologies de communication, c'est les théories inspirées de la cybernétique, et en particulier cet idéal dérivé des écrits de Wiener, selon lequel finalement il ne faut pas mettre d'obstacle à la circulation des informations, sous peine effectivement d'avoir des systèmes clos, qui seraient en quelque sorte des systèmes mortifères pour la société. Et puis donc la troisième racine, celle-ci est beaucoup plus récente, peut-être insister davantage sur celle-ci, c'est l'influence des thèses néo-capitalistes. Alors ça, c'est été relevé notamment dans les écrits de Boltanski et de Chiapello, hein, leur ouvrage sur le nouvel esprit du capitalisme. J'y reviendrai peut-être davantage en conclusion. Boltanski et Chiapello, hein, ce n'est pas des personnes qui promeuvent cette théorie néo-capitaliste, hein, mais qui les analysent, mais qui en gros expliquent que des valeurs comme celle de l'autonomie productive au sein des entreprises, celle de la flexibilité du travail, la capacité pour un employé à jongler entre plusieurs projets au sein d'un même service, sont des attributs qui sont connotés extrêmement positivement et qui constituent finalement l'optimum du nouveau travailleur dans les sociétés dites néo-capitalistes ou post-capitalistes. Alors, voyons cela maintenant de façon plus détaillée à propos des discours autour du journalisme participatif. Alors, là, quelles sont les réalisations emblématiques ? Il y en a deux essentiellement. Ce qu'on peut appeler les blogs d'opinion, hein, c'est-à-dire des blogs finalement qui sont moins des blogs où on va sortir des scoops sur l'actualité, mais qui sont plus des blogs de commentaires, hein, où les internautes vont être amenés à donner leur opinion, leurs sentiments par rapport à l'actualité, à échanger finalement sur ce qui fait débat dans l'espace public. Et puis également les sites de journalisme dits citoyens. Alors pour prendre quelques exemples en France, hein, c'est un site comme AgoraVox qui se présente comme un site de journalisme citoyen, un site comme Le Poste, et puis dans une moindre mesure un site comme Rue 89. Il y a d'autres exemples à l'étranger, commencé par le site Oh My News qui a été en quelque sorte le précurseur en Corée du Sud, ou encore un site comme Newsvine aux États-Unis. Alors, pour les étudier de près ces discours relatifs au journalisme participatif, je me suis penché en détail sur deux écrits. Un premier, c'est un ouvrage de Joël de Ronet, qui a été écrit avec Carlo Revelli. Bizarrement, chaque fois, il est donné entre parenthèses. Cet ouvrage a été écrit en fait par les deux cofondateurs du service AgoraVox. Il faut savoir que Joël de Ronet, c'est quelqu'un qui occupe une position, on va dire, de pouvoir dans l'espace académique. Hein. Si mes souvenirs sont bons, il a quand même été un moment directeur de la Cité des sciences et de l'industrie. Il écrit nombre d'ouvrages, il est régulièrement invité dans tout un tas de médias, y compris des médias grand public. Donc il écrit un ouvrage en 2006 qui s'intitule La révolte du prolétariat. Et à mon avis, c'est surtout le sous-titre qui est beaucoup plus parlant. Le sous-titre, c'est des masses médias aux médias des masses, et non pas aux médias de masse. Hein. Cette idée que finalement, l'ensemble des citoyens, grâce aux technologies numériques, s'approprieraient les moyens de communication. Alors je précise également que là, j'ai retenu le titre initial, médias, avec un accent et pas de S. Ce que tous les enseignants d'information et communication ici présents disent d'éviter à leurs étudiants, hein, parce que soit on choisit avec l'accent et on met S, soit on ne met pas d'accent. Enfin bon, passons. C'est comme ça, hein, je peux vous dire, sur toutes les couvertures de ces ouvrages qu'on retrouve cette faute, bizarrement. Alors l'autre écrit, alors c'est celui d'un chercheur en tant que tel. On peut dire que même en matière d'analyse sur le journalisme en ligne au niveau international, c'est sans doute un des deux ou trois chercheurs les plus reconnus. Il s'appelle Mark Dews. Il est néerlandais à l'origine, mais il enseigne maintenant à l'Université de l'Indiana aux États-Unis. Il est membre de plusieurs comités de revues scientifiques, comme par exemple le Median Society, qui sont spécialisés dans ce type de thématique. Donc c'est un chercheur très reconnu, et qui, dans plusieurs ouvrages, on va dire une analyse plus mesurée du développement du journalisme en ligne, mais qui, dans cet article de Political Communication Report, dire verse là dans une vision beaucoup plus idéologique du journalisme participatif. Voilà. Donc, prenons quelques extraits hein, de l'ouvrage de René et donc de Revelli, mais moi-même, j'ai oublié Revelli au passage parce que c'est plus court, le pauvre. Donc, l'intitulé, c'est donc, des masses médias aux médias des masses. Donc, cette promesse des médias des masses, pardon, comment est-ce qu'elle s'illustre ? Alors, je prends un extrait, mais pas tout lire intégralement, mais en gros, c'est cette idée que finalement, on avait un monde industriel jusqu'aux années 90, en gros, et que désormais, on passe à un monde post-industriel. Donc, on n'a plus un monde qui est assis sur un capital financier et de production, mais avec la société de l'information, on passe à un capitalisme informationnel. Donc André Vitalis en a parlé ce matin, il y a tout un tas de théories à ce sujet, notamment celles issues du capitalisme cognitif qui font florès. Alors, de Ronet les reprend, sans forcément les citer. Donc une phrase qui suit celle-ci, hein, c'est allusion à cette idée de création collaborative hein, grâce au blog, grâce au site de journalisme participatif, donc, avec une nouvelle forme de capital, et puis toujours cette idée qui est martelée hein, dans l'ouvrage, que désormais les utilisateurs ne sont plus de simples consommateurs, mais ce sont d'ailleurs, dit-il, des consommateurs, hein, ce qui a vraiment le sens de la formule jusqu'au bout. Ça c'est un extrait. L'ouvrage de De Ronet. Autre chose, donc toujours cette idée, je disais que c'était très présent, cette idée d'horizontalité des échanges par rapport à la hiérarchie verticale un petit peu rigide. Donc lui, il reprend ça en disant que finalement, il n'y a plus de directives qui sont envoyées du haut de la pyramide vers le bas. Autre chose également qui est assez intéressant, c'est l'allusion à l'idée de régulation. Donc comme je disais que tout à l'heure, la cybernétique était mobilisée, on va le voir, il y a quelques relents, quelque sorte, de cette source d'inspiration comme cette idée de régulation. Oui, c'est bien mon téléphone qui sonne. Alors, je l'ai mis pourtant sur le niveau le plus bas, mais c'est amplifié par le micro. Voilà, donc un exemple. Autre chose aussi, là je l'ai souligné, cette aversion pour la technocratie, de façon plus générale, une aversion pour l'État ou pour les pouvoirs publics. Alors ça aussi, c'était démontré par Breton, entre autres, mais c'est pas le seul. Que finalement, on a une alliance entre l'idéologie libérale, l'idéologie libertaire, en partie autour de la cybernétique, mais pas seulement. Il y a aussi des chercheurs anglais qui ont expliqué ça. Là aussi, ça rejoint ce que disait André Vitalis. Ce matin, je pense notamment à ce que Barbrook et Cameron ont écrit à propos de l'idéologie californienne. On vous explique finalement, c'est un mix entre la cybernétique, la contre-culture, le bouddhisme zen. Finalement, il y a des emprunts assez hétéroclites, mais qui sont mariés dans ce type de discours. Et finalement, contrairement à lui, souvent, qui est celui de l'État. Je vous renvoie là notamment, par exemple, toutes les déclarations de Steve Jobs, le patron d'Apple, ou notamment à Bill Gates, vous en souvenez sans doute, qui avait écrit un ouvrage dans les années 90, La route du futur, où il stigmatisait, ou plutôt, il souhaitait l'avènement d'un marché sans friction. Cette formule, elle résume un petit peu tout ça. Bon, là aussi, je vais pas tout lire, mais il y a cette idée de co-régulation citoyenne, donc là encore, la présence aussi de inspiration cybernétique. Je le dis très très rapidement ici, évidemment, on pourra le développer par la suite. Bon, là encore, écosystème informationnel, donc sont des théorisations dans l'ouvrage de Deronet qui sont souvent des théorisations organicistes, c'est-à-dire qui assimilent la société à un être vivant. Là aussi, c'est présent notamment dans les théories cybernétiques, c'est présent également chez Saint-Simon. Donc c'est assez étonnant de voir revenir ce type de... Enfin, les voir revenir en force, cette idée d'autorégulation organiciste, notamment dans les écrits du milieu des années 2000. On remarquera d'ailleurs de façon plus générale, et ça, y compris chez plusieurs collègues, que la référence par exemple à l'écosystème informationnel qui est présente dans l'ouvrage de Deronet, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est quasiment plus questionné. Moi je ne mets pas en cause l'utilisation de théorisation organiciste, finalement c'est un raisonnement par analogie qui permet d'expliquer, qui permet de rendre compte de phénomènes sociaux. Mais en faire l'oubli et torbi, finalement, l'explication du fonctionnement social, on passe aussi sur tout un tas de traits spécifiques justement à l'activité en société. Donc là, on trouve une phrase qui, très franchement, alors je n'ai pas le temps de le montrer ici, mais est très proche de certains des écrits de Wiener. Les êtres vivants s'échangent en permanence, non seulement de la monnaie, comme dans l'économie classique, mais surtout de l'information. Donc l'information comme force régulatrice, finalement, de l'activité en société. Alors là aussi, quelque chose qui est très proche, mais je passe un peu plus rapidement. Alors dans l'ouvrage de Dewes, donc lui, il parle de journalisme liquide, Liquid Journalism, en se référant notamment aux écrits de Zygmunt Bauman. Donc c'est un des théoriciens de la postmodernité qui est très en vogue dans le monde de la recherche anglo-saxonne, avec beaucoup de guillemets. Donc c'est cette idée que finalement on avait jusqu'au XXIe siècle un certain nombre d'institutions qui étaient solidement ancrées, comme par exemple les États-nations, la cellule familiale, et notamment les médias de masse, et puis que finalement avec le XXIe siècle on a une sorte de dilution de l'ensemble des institutions, avec une intervention beaucoup plus grande justement des citoyens, avec une décentralisation des processus décisionnels, etc., etc. Alors lui, il reprend ça à son compte par rapport aux médias, et donc il parle de post-médiatisme. Donc c'est assez intéressant ça, parce qu'il utilise cette métaphore du liquide, de la dissolution, de la dilution, etc. Et il faut savoir que Saint-Simon, dans ses écrits, faisait exactement la même chose. Il expliquait que finalement, la solidité des matériaux provenait notamment des éléments liquides qui les constituaient. Et que finalement, il fallait, en ce sens, préférer une société dans laquelle l'information pourrait circuler de la façon la plus fluide possible pour arriver à un fonctionnement optimal de la société. Donc on retrouve ça complètement dans les écrits de Dewes, et à tel point qu'il vient à dire notamment que les mass médias, que le journalisme traditionnel, c'est une institution zombie, hein, donc finalement une institution mourante, et donc il ne peut pas faire face à la complexité grandissante du monde contemporain, de la vie liquide, hein, encore une fois, cette préférence pour la fluidité par rapport aux soi-disant hiérarchies rigides traditionnelles. Donc là encore, référence à l'écologie, j'ai dit tout à l'heure. On retrouve aussi cette idée d'utilisateur ou d'individu qui aurait droit à un certain empowerment. Donc ça, c'est très très présent dans la littérature sur le web 2.0, y compris dans la littérature académique. Donc grâce aux outils de communication, donc là il y a un déterminisme technique qui est très fort, grâce aux outils de communication, les internautes, les individus de façon générale seraient en mesure de rivaliser avec les grands médias, puisqu'ils auraient le droit de s'exprimer beaucoup plus librement, ils auraient leurs propres médias personnels, etc., etc. Donc c'est exprimé à la fin, cette idée que finalement il n'y aurait plus de frontières entre professionnels et amateurs, plus de frontières entre producteurs et consommateurs. Il me reste 3 minutes, 5 minutes. Bon. Alors, bon, je crois que je vais aller à la conclusion directement, parce que sinon ça ne sera pas intéressant pour le débat. Simplement, je voulais vous montrer d'autres choses. Alors, revenir sur un certain nombre d'écrits qui avaient été donnés par Revelli et De Ronay, plus spécifiquement à partir du service Agoravox. En gros, ils expliquaient que désormais tout le monde pourrait écrire et donner son avis grâce à l'internet, notamment cette notion d'empowerment qui était reprise, donc pouvoir des amateurs, tout citoyen étant porteur en puissance. Il explique aussi que la hiérarchie sociale n'existe plus, en tout cas elle est atténuée, puisque chacun désormais peut participer grâce à l'internet, etc. Et en fait, il y a un certain nombre d'études qui ont été menées à propos des utilisateurs d'Agoravox, qui montrent au contraire, donc là il y a un collègue qui s'appelle Lionel Barck, qui a fait une étude en 2006, qui montre qu'en gros, parmi les catégories socioprofessionnelles qui utilisent les services d'Agoravox, on a une surreprésentation des professions intellectuelles, pour aller vite, je vais très très vite. Il y a un étudiant qui a fait un mémoire aussi sur le sujet, qui a procédé à des enquêtes plus qualitatives, qui montrent là encore que les professions intellectuelles sont surreprésentées parmi les contributeurs d'Agoravox. Et autre élément assez intéressant, elle montre que ces contributeurs du site Agoravox sont très souvent des personnes qui en même temps sont très, très impliquées dans soit des syndicats, des organisations politiques, dans le mouvement associatif, donc ont une activité militante qui en quelque sorte les prédispose à la prise de parole dans l'espace public, encore une fois. Donc on n'est pas, en gros, pour résumer, on n'est pas du tout en face d'utilisateurs lambda, d'utilisateurs ordinaires, mais au contraire, on a affaire à des personnes qui étaient déjà très très actives en matière d'expression publique. Donc là, ça pose une question plus large. C'est finalement quelle est la nouveauté du journalisme participatif en la matière. Il y a une étude très récente de collègues britanniques qui revient là-dessus. Donc, je vais très vite, mais en gros, il montre que là encore, en fonction du niveau de revenu, on aura une participation qui sera plus ou moins élevée. Quel que soit le média, les journaux, les programmes de télévision, la radio ou les sites de news, donc entre par exemple les courriers envoyés au service du courrier des lecteurs dans les journaux, entre les émissions de libre antenne à la radio, entre les débats télévisés et puis entre les pratiques plus participatives liées à l'internet, là encore, on aura par exemple une présence de ce qu'ils appellent les activistes. Alors, c'est un petit peu l'équivalent du militantisme hein, dans cette étude. Donc on montre que ça croît avec le niveau finalement d'activisme militant. Et puis autre chose, ça c'est intéressant, qui montre que finalement, ça c'est quand même une des rares études qui est revenue là-dessus depuis, qui de mon point de vue est intéressante parce qu'elle permet de relativiser finalement le caractère, encore une fois, de nouveauté radicale du journalisme participatif. C'est qu'en interrogeant ces 1 000 000 à peu près hein, de citoyens britanniques sur leur pratique de contribution aux médias, on se rend compte qu'ils sont 17% à avoir écrit par exemple un journal, ils sont 7% à être intervenus auprès d'un programme de télévision, soit par téléphone, soit en y participant directement, 9% pour un programme de radio, ils ne sont aujourd'hui que 4% à l'avoir fait pour un site web. Donc aujourd'hui, le web, c'est le média sur lequel on a le moins de pratiques participatives, en Grande-Bretagne en tout cas. Donc ça permet quand même de relativiser bien des choses. Alors en conclusion, parce que c'était un petit peu l'idée de cette journée, et puis Pascal a pointé aussi certaines réflexions à ce sujet tout à l'heure, quand on voit ce type d'études qui montre encore une fois que les pratiques participatives ne sont pas en rendez-vous, en tout cas pas à la hauteur de ce que pouvaient être les espoirs qui étaient formulés dans les différents discours d'accompagnement du web participatif, comment expliquer finalement que ces discours-là aient un tel succès? Et puis encore une fois, ça c'est pas quelque chose qu'on découvre aujourd'hui. Depuis le début des technologies d'information et de communication numérique, pour aller vite, on a ce type de discours et ce même décalage. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, j'ai envie de dire qu'ici, dans le cas précis du web participatif, du journalisme participatif, on a d'une part un certain nombre de théories, ou en tout cas d'appuis intellectuels, comme la théorie saint-simonienne ou la théorie cybernétique, qui sont particulièrement adaptés à l'Internet, culte des réseaux chez Saint-Simon, idée de co-régulation via les machines dans la cybernétique, donc ça se prête parfaitement au Web 2.0, ce sont des modèles explicatifs, de compréhension, d'explication de l'Internet qui sont particulièrement adaptés. Et puis en plus, comme je l'ai dit, il y a cette idée que finalement, on a également une troisième racine idéologique plus récente, qui est celle des théories néo-capitalistes, et qui là forme un air du temps, qui... au milieu des années 2000 au moins, c'est un petit peu moins le cas maintenant sans doute, mais au milieu des années 2000 au moins, était très prégnante, et qui donc ont favorisé, si vous voulez, l'accueil de ce type d'idées. Cette idée d'une contribution active, d'une flexibilité, d'une participation des individus était finalement assez bien valorisée, assez bien reçue, parce qu'elle cadrait avec un air du temps idéologique plus général. Alors, notre remarque aussi, donc ça c'est ce qu'expliquent Boltanski et Capello dans leur ouvrage. Donc en gros, et pour aller très vite, parce que là encore, enfin, de mon point de vue, c'est un ouvrage fondamental, qui fait quand même plusieurs centaines de pages, donc je vais le résumer en à peu près 15 secondes. Donc en gros, Boltanski et Capello distinguent deux types de critiques à propos du capitalisme. Ce qu'ils appellent la critique sociale, qui a été incarnée dans les mouvements ouvriers, ouvriéristes, dans le syndicalisme, etc., qui s'est opposé à la pénibilité du travail, par exemple, sur les chaînes de production, qui s'est opposé aux bas salaires, qui a obtenu un certain nombre d'avancées, un certain nombre de conquêtes, comme le salaire minimum, comme la sécurité sociale, les congés payés, etc. Et puis, à côté de ça, il y avait également une critique que Boltanski et Capello appellent la critique artiste du capitalisme, qui expliquait que finalement, certes, la critique sociale avait permis d'obtenir un certain nombre d'avantages, mais qui ne faisait pour autant pas disparaître le caractère aliénant du travail dans les sociétés capitalistes, et qui prenait un retour finalement à des formes de production plus authentiques. Donc pour caricaturer à l'extrême et pour schématiser, c'est la pensée 68arde, pour aller vite, et ça se concrétise dans les 68ards parisiens qui vont s'installer en Ardèche pour produire eux-mêmes leur fromage de chèvre. Je vais très très vite et très très rapidement, mais en gros c'est cette idée finalement que on retrouve à propos l'idéologie autour du web 2.0 qui font une désintermédiation finalement. On va enlever les intermédiaires pour pouvoir soi-même produire en l'occurrence des contenus qui du même coup ne seront en quelque sorte pas travestis par les grandes firmes, les majors des industries culturelles, du divertissement, etc., etc. Alors ça, c'est assez intéressant parce que finalement, dans les thèses néo-capitalistes, c'est ce que montrent Boltanski et Capello, on a finalement une sorte de récupération de la critique artiste du capitalisme qui est reconvertie avec cette idée d'activité, de propre production, d'investissement dans des projets, etc. Et finalement, les critiques anciennes qu'on pouvait adresser à l'idéologie de la communication, qui parfois étaient des critiques d'inspiration marxiste, eh bien, ne tiennent plus en face de ce type d'arguments, ou en tout cas, elles ont du mal à exister. Donc ça, c'est une autre piste que je voulais pointer, c'est finalement quelle critique opposer, mais une critique qui soit recevable. Alors, je me permets de le dire aussi, parce que je suis intervenu une ou deux fois précédemment sur des thématiques voisines, présentées des versions un peu différentes de ses travaux, mais quand même assez proches, et dans des enceintes qui étaient beaucoup moins réceptives. Je parlais tout à l'heure avec Pascal, là, à l'issue du déjeuner. J'ai présenté ça dans une journée d'études qui était consacrée au site de réseaux sociaux, une journée d'études organisée par le CNRS. Et en gros, le sentiment premier qui revenait, c'était que finalement, j'étais un vilain technophobe qui ne voulait pas voir les avancées, et notamment les progrès sociaux en matière participative. Alors, il n'y a pas uniquement ça. Il y a aussi des gens qui ont dit « c'est très bien, ça permet de prendre du recul, etc. » Mais il y avait des réactions assez hostiles. Dernièrement aussi, une table ronde d'une université parisienne, hein, c'était très récent, hein, il y a un mois, là aussi, il y avait des réactions très, très diverses. Hein, à la fois des personnes qui disent « oui, effectivement, il faut quelque sorte mettre en avant, comme on l'a dit tout à l'heure, ce caractère idéologique des discours d'accompagnement du web participatif. » Et puis d'autres personnes qui expliquent que finalement, ces critiques, on les connaît, et puis quand même, il faut passer au 21e siècle. C'est normal, c'est bien d'être actif, de contribuer, de participer, c'est un progrès, etc. etc. Donc, aujourd'hui, là, moi, j'étais très étonné, hein, pour tout vous dire, que depuis ce matin, dans l'assistance, on n'ait pas plus de réactions par rapport à toutes les présentations qui ont été faites, qui étaient souvent des présentations critiques, hein, vis-à-vis des discours d'accompagnement, de l'informatique, de l'Internet, etc. Je peux vous dire que c'est pas forcément le type d'accueil qu'on rencontre de façon dominante, y compris dans les enceintes universitaires. Hein. Pour tout vous dire, c'est ce que j'ai raconté à Pascal tout à l'heure, maintenant je le dis haute voix auprès de tous, justement, là, lors de la dernière intervention, il y a quelqu'un qui a dit « mais pourquoi est-ce que forcément la critique doit être négative ?» Texto, hein, c'est un collègue qui a dit ça. Alors, troisième chose, là aussi, c'est un petit peu une piste de débat. C'est qu'on a parlé du texte d'Aurélie tout à l'heure à propos du web 2.0. Tout le monde s'attendait maintenant à voir émerger le web 3.0. Et en fait, Aurélie, qui s'est associée pour l'occasion à Joe Battle, qui est un spécialiste des moteurs de recherche, a lancé une nouvelle formule qui connaît déjà un certain succès, qui est le web au carré, web squared en anglais. Donc là, il a pris tout le monde de court, hein, mais ça, c'est encore une fois le génie des gourous et des marketeurs du web. Et alors, ça, c'est intéressant parce que dans le texte, je suis penché sur les deux textes, hein, celui du web 2.0 là, de 2005 et puis celui sur le web au carré de 2009, il date de juin 2009. Et alors, c'est assez étonnant parce que finalement, la référence au capitalisme, elle s'efface un petit peu. Il y a un passage entier, on en a beaucoup parlé aussi aujourd'hui, sur le fait que finalement, les machines, là, avec la crise financière, elles ont été peut-être plutôt... elles ont peut-être plutôt accéléré le processus qu'elles ne l'ont ralenti. Donc, il y a une sorte d'autocritique en la matière. Mais pour autant... Il y a cette idée encore que finalement on va vers un progrès technique, hein, qui est celui en gros pour aller vite du web sémantique, mais je dis pour aller vite, ici à l'ENSIB il y a tout un tas de colloques et de conférences qui ont eu lieu autour du web sémantique, hein, fut une époque, un petit peu moins maintenant peut-être, mais bon, je dis très très rapidement. Et donc cette idée que finalement on va pouvoir interconnecter les données autour de la géolocalisation, hein, ça va être formidable parce que désormais sur les cartes justement qui sont fournies par Google, on va avoir une photo qui a été donnée par un internaute, une photo amateur, hein, qui va permettre de voir la place sous tous les angles, depuis la fenêtre de chez lui, sous un banc public, etc. Et puis on va avoir aussi une définition de Wikipédia par rapport à la statue qui est au centre de la place, par rapport au nom de la personne illustre qui a donné son nom donc à la rue ou à la place où on se trouve, etc. etc. Donc cette interconnexion de données est présentée comme un progrès. Mais pour le coup, alors ça rejoint ce qui était dit précédemment, il n'y a aucune interrogation sur les autres utilisations qui peuvent être faites de cette interconnexion de données. Ce qui est assez intéressant du coup aussi, c'est que finalement le Web 2.0 dans ses discours, c'est une opération, quelque sorte, de légitimation de la participation des internautes, hein, qu'on fournit effectivement tout un tas d'éléments, et ici on se retrouve dans une sorte de légitimation de l'interopérabilité, hein, avec ce texte autour du web au carré, sans forcément qu'il y ait là encore d'interrogation de façon plus générale sur les conséquences sociétales de ce mouvement-là. Voilà, j'en ai terminé. Merci.
Merci Franck. Alors, je trouve que le web au carré, ça fait quand même moins que web 2.0. On verra bien. On a le temps. Alors, l'intervention surprise est extensible vers le bas, donc rassurez-vous, nous finirons à 16h30, 16h35 au plus tard. On a le temps d'une ou deux questions et de réponses aussi rapides que les questions. Et je m'arroge la première question. Il y a un autre discours sur lequel on aurait pu s'interroger ce jour et qui me paraît tout à fait rejoint, celui du web participatif. C'est la notion, avérée ou non, d'intelligence collective, qui là encore un discours très récurrent autour du web et de son usage. Comment est-ce que vous la raccrocheriez à votre problématique ?
Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle est, elle est présente. Là, je n'ai pas donné tous les extraits des textes que j'ai présentés aujourd'hui, mais par exemple, dans l'ouvrage de René, il est fait référence à cette idée d'intelligence collective. Et puis également dans le texte de Dewes, donc je dis, il fait référence à des auteurs postmodernes comme Zygmunt Bauman, mais également à quelqu'un comme Ulrich Becht, et puis également à Pierre Lévy, qui est un petit peu le père de la formule de l'intelligence collective en quelque sorte. Donc c'est également très présent, ça c'est quelque chose qui est présent dans ses écrits. Absolument.
Une question ? Pardonnez-moi.
Bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation. Moi j'ai plusieurs axes de questions en fait. Le premier axe, c'est comment vous relieriez la question de la technique et tout ce qu'on a dit ce matin et cet après-midi sur l'intervention de Pascal Robert notamment sur la pensée technique et le nouvel esprit du capitalisme. Et comment penser la technique donc ? Est-ce qu'elle serait peut-être l'un des bras droits de ce renouvellement constant du capitalisme ? Et est-ce que la critique doit prendre en compte ces deux phénomènes et comment ? Et le deuxième axe, c'est la critique, quelle critique opposer donc à ce nouvel esprit du capitalisme ? Est-ce que ce ne serait pas peut-être le rôle des chercheurs en cycle que de proposer cette critique, et notamment donc, ce que vous disiez sur la réception des gens qui est toujours un petit peu violente face à des discours critiques négatifs par rapport à l'innovation technique, est-ce que ce ne serait pas la communauté ici qui devrait justement essayer, depuis une posture épistémologique, de garder cette posture critique-là ? Donc voilà. Je ne sais pas si j'étais clair.
Si. Je ne sais pas si je suis le seul à pouvoir répondre sur la deuxième question. Peut-être les collègues voudront le faire, sont également concernés. Sur la première. Par rapport à la question de la technique et du nouvel esprit du capitalisme, j'ai envie de faire une réponse assez générale, qui consiste à dire que finalement le nouvel esprit du capitalisme, évidemment, lorsqu'ils l'ont écrit, Boltanski et Chiappello font explicitement référence à l'ouvrage majeur de Max Weber sur éthique protestante et esprit du capitalisme. Donc en gros, il explique que de la même façon que l'éthique protestante, pour aller vite, était le soubassement idéologique, intellectuel, au développement du capitalisme, à l'acceptation du capitalisme à une époque donnée. Aujourd'hui, on serait en présence d'un autre soubassement idéologique, intellectuel, qui serait ces thèses néo-capitalistes, justement. Donc il y a un soubassement idéologique, mais qui est en quelque sorte aussi incarné dans un certain nombre de dispositifs. Et de façon évidente, les outils, par exemple, si on prend ceux du travail en entreprise, alors moi je ne suis pas directement spécialiste de ces questions, mais j'ai déjà lu des écrits de collègues en la matière. Si on prend des outils comme justement les outils qu'on appelle ceux du travail collaboratif en entreprise, sont précisément des incarnations, on va implémenter dans les systèmes eux-mêmes la traduction en quelque sorte informatisée d'un certain nombre de préceptes qui ont une part idéologique relative encore une fois à l'activité, la gestion par projet, la malléabilité en quelque sorte dans le travail qu'on demande à la plupart des salariés aujourd'hui. Alors sur la deuxième question, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Non ? Bon.
Une dernière question très vaste, une réponse très très courte. Le journaliste est-il mort ? Et si oui, est-ce que l'Internet m'a tué ?
Ah, ben ça c'est plus large alors.
Mais malgré tout, fais une réponse rapide.
Oula ! Non, la réponse c'est non. Non. Là, vous voulez parler des pratiques journalistiques sur Internet ?
On a peut-être tous lu hier que le New York Times, qui est quand même un des fleuron de la presse américaine va licencier, je crois, 10% de ses journalistes d'ici la fin de l'année 2010. Est-ce que c'est le signe avant-coureur ou est-ce que c'est juste un épisode de plus ?
Non, moi je pense que... Enfin, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, je pense que c'est très important de le dire. Il faut raisonner sur le... Non pas sur le court terme, mais également sur le moyen terme ou le long terme. Et de ce point de vue, toute arrivée de technologies de communication un peu nouvelles amène forcément des soubresauts dans l'organisation industrielle qui est en place. Donc là, on peut imaginer qu'effectivement, alors c'est évidemment très malheureux qu'il y ait des licenciements dans les journaux papier, mais d'une certaine manière, c'est sans doute un moment transitoire par rapport à une nouvelle organisation plus large de la presse écrite qui est amenée à se diversifier sur le numérique. Donc je veux dire par là qu'on va sans doute aussi avoir des transferts en matière de production de l'information entre les différents médias. Donc s'arrêter à cet épisode qui est celui du licenciement au New York Times, je pense que c'est un perte important aujourd'hui dans la période actuelle, mais sur une échéance de 10 ou 15 années, c'est quelque chose qu'il faudra regarder avec sans doute plus de recul. Donc, ça s'inscrit sans doute dans un mouvement plus large de déplacement des lignes entre les différents médias.
Merci à vous, Franck. Merci aussi à l'ensemble des intervenants de la journée. Je vous propose de les applaudir à nouveau.